Praise the Lord, je suis loué. Est-ce que vous avez appris quelque chose depuis là? Aujourd'hui, nous voulons aller plus de l'avant. Dans notre discussion que nous avons commencée hier, quelques pensées vitales que nous avons aujourd'hui pour pouvoir prêter de l'attention. Hier, nous avons épelé notre objectif. Vous vous souvenez comment nous l'avons fait? Est-ce que nous avons épelé correctement ce qu'était notre objectif, ce que nous appelons le but de notre propos? Et je pense que vous l'avez écrit. Est-ce que vous pouvez dire correctement ce qui était notre but hier. Et je ne suis pas en train de vous écouter. Recommencez à nouveau. Je veux que vous puissiez le dire plus haut, comme si vous le connaissiez réellement.
Alléluia.
Que Dieu soit loué.
All right.
Ok.
So,
maintenant, notre objectif et notre but est là pour deux propos ou deux racines. La première racine, pour ce que nous pouvons voir, premièrement, est le gain des âmes. Nous allons gagner des âmes pour l'évangile de Christ, ça c'est notre premier objectif. Et deuxièmement, de notre objectif, c'est faire des disciples. C'est faire des disciples. Et essayons de définir cela de manière rapide. Le gain des âmes veut dire, je veux que vous l'écrivez, le gain des âmes veut dire que nous allons hors de notre zone de confort, nous allons hors de notre zone de confort pour gagner quelqu'un qui a besoin de Christ. En d'autres termes, ça peut ne pas être convenant, confortable à vous, mais cette personne a besoin de Christ. Toute personne qui n'est pas née de nouveau a besoin de Christ. Et le gain des âmes veut dire que nous allons hors de notre zone de confort. C'est un labeur. C'est pas quelque chose qui se passe lorsque nous sommes d'accord, nous faisons une décision d'aller toucher quelqu'un qui a besoin de Christ. Il doit y avoir un mouvement à cela. Les gens qui ne produisent pas d'efforts n'ont jamais effectué des changements. Et hier, nous avons commencé à discuter la poursuite du but. Lorsque tu as ton but clair et que la clarté est dans ton objectif, dans ton but, la prochaine chose à faire, c'est de poursuivre ton but. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attendre dans leur zone de confort, attendant que quelque chose se passe. Et la seule chose qui se passe, c'est les crises et les factures qui augmentent. Et les problèmes arrivent. Et les factures n'arrêtent pas de grandir dans leur vie. Et ils ne peuvent produire aucun résultat, aucun changement. Proverbe 14, verset 23 dit que dans tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Donc si tu fais quelque chose qui va changer la vie d'un autre homme et le faire de manière consistante, toute chose te concernant sera prise en charge. C'est le principe de Dieu. Il y a une loi dans la nature qui va te payer en retour pour ce que tu mets pour les autres. Lorsque tu rends des services sans gagner quelque chose en retour, peu importe ce que c'est ce service, au commencement, ça peut ressembler à quelque chose de dur à faire, mais avec le temps, cela va te payer. Cela va payer en retour. C'est une loi de la nature. Tu ne peux pas être volé. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Alors, ils ne veulent pas faire des efforts pour aider d'autres personnes, pour d'autres personnes se lever. Et dire, j'ai fait ceci pour telle personne, j'ai aidé telle personne, j'ai fait ceci pour beaucoup de gens, et les gens ne se sentent pas souvenus de moi. Non, il faut juste que tu continues de le faire. Très bientôt, cela va payer. Cela va payer en retour. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. C'est juste une affaire de temps. Tu ne peux pas voler un donneur. C'est une loi de la nature. Alors, le gain des âmes est un travail difficile. Le gain des âmes, c'est quelque chose que nous devons faire, aller vers d'autres personnes. Pour rendre Christ disponible. Christ est en moi maintenant. Christ est en moi dans mon cœur. Christ est dans ma maison. Christ vit dans ma maison. Il vit en moi. Il a fait son quartier général dans ma vie, dans mon cœur. Où je vais, Christ va. Mais le problème, c'est que le pécheur ne peut pas voir Christ jusqu'à ce que je puisse aller vers cette personne. Je dois comprendre ces choses. Je dois avoir cette mentalité. Je ne dois pas penser que d'autres chrétiens seront en train de le faire parce qu'il y a des gens qu'il a appelés de pouvoir gagner. Et moi aussi, j'ai mon propre monde. Nous avons tous notre propre monde que nous devons toucher avec le message. Tu as ton monde. Et je vous ai dit hier que votre monde, c'est votre sphère de contact. Ceux qui sont en contact avec vous, et c'est ces personnes que Dieu vous tient responsables. Dieu ne va pas me tenir responsable pour les personnes qui sont dans ton monde. Il va te tenir responsable pour des gens qui sont autour de toi, qui travaillent avec toi, qui vivent avec toi, qui sont en business avec toi. Dieu va te tenir responsable pour eux. Tu es celui qui a Christ. Tu as celui qui rend Christ disponible. Ceux qui regardent au soleil ne voient pas l'ombre. Lorsque tu fixes tes yeux à Christ, tu n'auras pas le temps de penser aux problèmes qui te distraient. Tu ne seras pas là à le faire. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous disons que le gain des âmes, c'est la priorité première de Dieu. Lorsque tu deviens un chrétien, tu entres dans la mission de gain des âmes. Tu es un missionnaire dans ton monde. Tu es l'envoyé de Dieu dans ton monde. J'ai été appelé pour apporter le message dans ta vie, mais je n'ai pas été appelé pour emmener cela dans ton monde. C'est toi qui dois emmener cela dans ton monde. Pour ceux qui te connaissent, tu es en contact avec quelqu'un quelque part, même si tu ne les as pas parlé. Est-ce que tu ne les vois pas? Est-ce que tu ne les entends pas? Est-ce que tu es assez aveugle de voir leurs besoins? Je me rappelle lorsque je partais pour l'évangélisation de maison en maison. J'allais de maison en maison et cognais aux portes. Il y a un moment, les gens étaient fâchés. Vous savez, ils ouvrent la porte et qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils savent que je suis un étranger. Donc, ils demandent qu'est-ce que tu veux? Et je leur réponds, je veux partager une bonne nouvelle. Et certains d'entre eux sont ouverts, se disent, ok, viens, je vais parler avec certaines personnes comme toi. D'autres personnes disent, ah, j'ai pas le temps, ils ferment la porte. Et des fois, je suis là, j'attends. Et est-ce que tu es encore là? Et à un moment, ils sortent et ensuite, ils s'asseyent. D'autres disent, je n'ai pas le temps. Et je vais dans la prochaine maison. Et des fois, je vois des personnes assises dehors. Et je leur dis que je vais partager la bonne nouvelle avec eux. Ils disent, non, mais asseyez-vous. Et je vais voir certaines personnes qui travaillent dans les chantiers. Et donc, à la pause, je vais les voir et je prêche l'évangile avec eux. Je vais aller de maison en maison, de ruelle en ruelle. Je prends les ruelles et je vais de maison en maison dans cette ruelle. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quelque chose pour la passion de Christ et pour son message de salut. Et c'est pour cela que je continue à faire cela. C'est pour cela que je continue à faire ce genre de choses. Et quand je prêchais de ruelle en ruelle, cela n'était pas assez. Et je me dis, comment est-ce que je vais le faire ça? Et j'appelais certains de mes amis pour m'aider. Et nous allons nous diviser en groupes. Et nous allons à gauche, à droite pour prêcher l'évangile, de maison en maison. Et après cela, nous allons dans les hôpitaux pour prêcher. Le plus dur, c'est quand je suis allé dans l'hôpital psychiatrique. Et les démons n'arrêtaient pas de crier lorsque je suis arrivé. Et donc, c'était compliqué dans cet hôpital psychiatrique. C'était compliqué. Et ce n'était pas tous qui avaient des problèmes démoniaques, d'autres avaient d'autres choses qui n'étaient pas forcément démoniaques. Mais cela m'a montré où le besoin des hommes était. Je suis allé d'école en école, inclus les écoles des enfants. Je prêchais aux enfants l'évangile de Christ. Ce que je te dis, c'est... Tu dois faire quelque chose. Tu ne peux pas juste être là. Tu ne peux pas être là. Non, mais j'ai appelé certaines personnes et personne ne sont pas venues. Tu dois aller là où se trouvent les pécheurs. Les pécheurs, généralement, ne viennent pas à l'église. Et certains d'entre eux peuvent venir à l'église, mais la la majeure partie d'eux ne viennent pas à l'église. Et les personnes qui peuvent partir auprès d'eux, c'est celui qui est né de nouveau, qui a vu la lumière. Et c'est celui-là qui peut partir auprès d'eux. Nous sommes dans cette situation terrible et beaucoup de chrétiens pensent que l'évangile, que la prédication de l'évangile, c'est pour les pasteurs à la télé ou les pasteurs consacrés. Mais ils se trompent complètement. Le gain des âmes, c'est le travail de tous les jours de tous les chrétiens. Le gain des âmes, c'est parce qu'on peut faire à la télévision. C'est merveilleux. Mais le gain des âmes, c'est voir quelqu'un et apporter Christ dans la vie de cette personne. Et que laisser Christ puisse toucher cette personne et parler au travers de toi. Les écrans ne peuvent pas aimer. Le gars qui prêche l'évangile à la télévision ne peut pas les aimer lorsqu'ils sont dans leurs problèmes. Mais il y a quelqu'un qui peut être à votre côté, qu'on peut voir. Mais il faut Christ tous les jours à leur côté. Et ce Christ, c'est vous. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir. Est-ce que tu es encore là? C'est quelque chose que vous devez savoir. Et donc, le gain des âmes, c'est quelque chose qui est planifié stratégiquement en tant qu'individu et en tant que groupe. C'est une responsabilité personnelle. C'est pas quelque chose que tu attends à l'église que quelqu'un d'autre doit aller le faire à ta place. Ou c'est quelqu'un d'autre est en train de le faire quelque part. Et c'est là où le leader et les pasteurs doivent être vraiment d'une aide remarquable, parce que cela demande beaucoup d'efforts pour un chrétien, bien sûr, d'inviter un autre païen à l'église. Et certains, après d'autres, beaucoup de mois de refus, et après, il vient à l'église finalement. Et lorsqu'il vient à l'église, et le service n'avait pas été planifié, le pasteur n'a pas prié, ne s'est pas préparé pour le service. Donc, les choses sont allées d'une mauvaise direction. Et ce pécheur va retourner sans donner sa vie à Jésus-Christ, parce que le pasteur n'a pas préparé le service. Les pré-services que nous avons, et spécialement les services de dimanche, parce que il y a beaucoup de païens qui viennent le dimanche plus que les autres jours de la semaine de l'église ouverte. Donc, et le pasteur doit être stratégique, de savoir que, à part d'enseigner les frères, tu dois être concerné concernant les païens qui sont à l'intérieur de la congrégation. Et beaucoup de temps, lorsque je ne fais pas un appel au salut, et je vais parler au pasteur pour prendre le micro, pour dire que faire l'appel au salut. Parce que je sais que c'est important. Notre prière en esprit, lorsque je serai dans une autre part de... Je vais te parler de ça. Nous devons nous préparer dans la prière. Nous devons nous préparer dans la prière, dans nos différents services. C'est une responsabilité. Tout leader doit le savoir. Est-ce que vous savez que... Je vais t'expliquer d'une histoire. Et il y a deux femmes qui sont allées dans une croisade. Et lorsque ils étaient dans cette croisade, ils ne comprenaient pas l'anglais. Et ni ils comprenaient l'interprétation. Ils étaient aveugles. Elles étaient aveugles et elles ne pouvaient pas comprendre le langage. Mais elles savaient que c'était une croisade où Jésus a été prêché. Donc, ils étaient là. Et j'étais juste simplement en train d'écouter. Et jusqu'à ce que les deux femmes ont recouvert la vue. Ils ont recouvert la vue. Comment est-ce que la foi vient? La foi vient par l'esprit. Je veux te rappeler ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte. La Bible dit, dans le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples lorsqu'ils étaient là, tous dans un seul accord. Et comme les multitudes de langues, Yes, les a remplis et ils ont parlé en d'autres langues. Et la multitude en dehors a commencé à se demander. Parce que c'était un grand bruit, et ils ont entendu tous les hommes. La Bible dit qu'ils ont écouté tous les hommes dans sa propre langue. Dans la langue locale, native, dans les 120 disciples de Jésus-Christ qui parlaient en langue, et les juifs qui sont venus de partout dans le monde entier pour la Pentecôte. Les prosélytes sont des personnes qui sont des gens de d'autres nations qui sont convertis au judaïsme. Et donc, ils étaient tous en Israël pour célébrer la Pentecôte. Et ils ont entendu ces 120 disciples de Jésus-Christ parler dans les langues locales, dans leur langue native. Pierre n'était pas en train de parler dans leur langage. Et les gens disent que ton langage est mauvais parce que les gens qui étaient à l'extérieur écoutaient. Ils ont compris ce que les disciples disaient. C'est pas parce que les disciples parlaient dans leur langue native, leur langue locale. Dieu leur a donné la compréhension de ce qui a été dit en d'autres langues. Et même s'ils parlaient en anglais, en hébreu, en aramique, en grec, disons que les 120 ont parlé dans une seule langue. Comment est-ce qu'ils ont fait pour écouter? Comment ils ont fait pour écouter? C'était un miracle de la compréhension. Et c'est ce qui se passe plusieurs fois. Et ce qui se passe plusieurs fois. Lorsque les gens comprennent les choses qui sont dites en d'autres langues, que qu'elles soient louées. Et c'est la même manière que cela se produit aujourd'hui. C'est comme ça que ça se produit. Donc, lorsque tu pries sur le service, en tant que leader de cellule, peut-être que tu étais capable d'amener des personnes qui sont venues à l'église, qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Si tu avais prié, peu importe le prédicateur est en train de dire, même si le prédicateur ne dit rien à propos du salut et peut prêcher sur autre chose, dans la parole de Dieu, bien sûr, cet homme va être donné par la compréhension de l'Esprit Saint, dont le Saint-Esprit est le maître de la communication. Donc, il peut apporter l'évangile à tout un chacun selon ses différents niveaux. C'est notre prière qui fait en sorte que cela se produise. Notre prière relâche le ministère de l'Esprit. Que Dieu soit loué. Okay, je vais t'expliquer mieux avec cela dans un moment. Mais la deuxième chose, c'est faire des disciples. Faire des disciples. Donc, faire des disciples veut dire aller au-delà de nous-mêmes pour guider. À nouveau converti, ou même à la limite, quelqu'un qui n'est pas vraiment attaché dans la maison de Dieu, et pour le faire grandir dans la vie chrétienne. Donc, faire des disciples, ça veut dire aller au-delà de nous-mêmes pour guider les nouveaux convertis, ou même des personnes qui sont rebelles à l'évangile afin qu'ils soient complètement attachés à l'église et de grandir dans la vie chrétienne. Donc, c'est ce que veut dire faire des disciples. Donc, faire des disciples veut dire que nous nous intéressons en quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup au sujet de Christ. Donc, peut-être qu'il a donné sa vie à Christ, il a reçu Christ. Et peut-être qu'il n'est pas attaché à l'Église. Et peut-être qu'il n'est pas même intéressé à aller à l'Église. Il n'est peut-être pas intéressé à lire la Bible. Donc, il peut avoir beaucoup de questions. Donc, faire des disciples veut dire aller vers cette personne. Nous sommes intéressés à cette personne. Et pour le toucher complètement et l'aider à trouver son chemin. Alléluia. Donc, le faire des disciples, c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu. Nous tous, nous avons cette responsabilité d'entraîner un autre chrétien pour devenir un disciple. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Et il dit, à partir du verset 19, il dit « Allez partout ». Il dit « Allez partout dans le monde entier, faites des nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Donc, tout ce que Jésus nous a commandé, il a dit d'enseigner les autres à faire de même. Donc, de la même manière qu'il m'a enseigné les choses, je dois t'enseigner aussi comment faire cela. Les choses qu'il m'a commandées, moi aussi je t'enseigne cela. Donc, faire des disciples, c'est notre responsabilité. Pourquoi tu as été fait un leader de cellule? Tu as été fait leader de cellule, c'est que tu peux, afin que tu puisses nous rejoindre dans le travail du ministère. Donc, tu as été ordonné en tant que leader pour t'aider aussi à comprendre que maintenant, tu peux être responsable des âmes. Donc, il y a le temps est venu pour que tu sois responsable de quelqu'un d'autre, que tu as entendu assez l'Évangile pour pouvoir devenir un leader de cellule. Maintenant, lorsque tu comprends comment t'attacher à Christ de cette manière, lorsque tu comprends que Jésus est le Seigneur de ta vie et que tu as fait cette déclaration de sa Seigneurie, et tu t'es attaché à lui, oui, à ce moment, tu es devenu responsable de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ces choses. Et cette responsabilité est sérieuse. Donc, tu es devenu celui, tu es devenu l'un des leaders de l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que tu es maintenant. Tu es responsable, un chrétien responsable, qui peut être compté comme responsable. Et Christ peut compter sur toi pour la vie de quelqu'un d'autre, afin qu'il soit entraîné et qu'il soit nourri par toi. Et c'est ça ton travail en tant que leader de cellule. Je suis loué. Praise the Lord. Donc, faire des disciples, c'est notre responsabilité. Il dit, allez partout et enseignez toutes les nations. Il dit que les nations deviennent des disciples. Cela est merveilleux. Les nations deviennent des disciples. Waouh, quelle responsabilité. Et je me souviens, quelques années, j'étais encore très jeune, ah, je crois que c'était en 1997. J'étais debout quelque part avec une petite Bible. Et je pensais dans ma tête. Et tout ce que je savais prêcher, c'est ce que j'avais entendu mon père prêcher. Parce que mon père était dans l'église. Voilà, le pasteur lui demandait de prêcher. Et donc moi je comprenais pas ce que le pasteur disait à l'église. Mais quand mon père prêchait, je comprenais ce qu'il disait. Donc aujourd'hui, je peux rien dire de ce que j'ai compris, de ce que le pasteur disait à cette époque-là. Mais quand mon père prêchait, quand le pasteur lui demandait, je l'écoutais parce que j'avais mon attention focalisée sur lui. Mais dans cette occasion, en fait, et je pensais, qu'est-ce que je dois dire à d'autres personnes? J'étais dehors et c'est là où j'ai réalisé que je n'étais plus peur, que je n'avais plus peur. Parce que dans cette nuit-là, en fait, il pleuvait. Et soudain, il y avait des tonnerres. Et avant cela, j'avais peur des tonnerres. Et je devais avoir peur. Peut-être que ces choses vont m'attraper. Mais ce jour-là, je pensais que j'étais comme un enfant de Dieu. J'étais là. Peu importe les tonnerres, j'étais sûr que mon père était au contrôle. Donc c'était très bien. J'étais content. Et je me disais, qu'est-ce que je dois aller prêcher? Et dehors, avec ma petite Bible, donc le Nouveau Testament, et j'ai juste ouvert. Lorsque j'ai fait, et donc je suis tombé sur une page, et Jésus disait, comme tu pars, dis que le royaume de Dieu est proche, et de guérir les malades, chasse les démons, et purifie les lépreux. Et c'est ce que j'ai commencé à dire. Il dit, le royaume de Dieu est proche. Et souvent, le message que j'ai entendu parler mon père à l'église a commencé à me parler. Donc maintenant, le Saint-Esprit maintenant m'a aidé à comprendre que le royaume de Dieu est proche. Maintenant, cela me parlait. Et j'avais ma propre parole maintenant. Et maintenant, je parlais dire aux gens que le monde est arrivé à sa fin parce que le royaume de Dieu est proche. Et maintenant, tu dois être sauvé. Que Dieu soit loué. Et cela a pris 3 ans pour comprendre les autres pas. De guérir les malades, donc, parce que je n'ai pas vu des gens guérir les gens à l'église, donc à l'époque je ne comprenais pas. Donc j'avais cette partie qui restait, j'ai prêché la première partie, que le royaume de Dieu est proche, mais la partie de guérir les malades, je ne savais pas comment il faut le faire. Et c'est la meilleure chose avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Le Saint-Esprit est ton enseignant, tu as un enseignant à l'intérieur de toi. Dans ce que tu ne connais pas, il va te l'apprendre, il va te conduire, il va te guider. Et c'est ce qui est merveilleux. Et maintenant, le Saint-Esprit est en moi. C'était différent maintenant. Et maintenant, je savais quoi faire. C'est comme si je savais qu'est-ce que je dois faire. Et maintenant, nous sommes allés dans une réunion où j'étais pas un leader, mais j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais je savais que j'étais rempli du Saint-Esprit. Donc, je suis allé à cette réunion et je me suis levé et j'ai commencé à parler. Que quiconque qui est malade vient ici. J'ai jamais vu cela se produire. Donc, maintenant, juste que le Saint-Esprit m'a enseigné, j'ai dit, bon, allez, que celui qui est malade vient ici. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un guérir. Il dit, bon, maintenant, ceux qui étaient là, je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Non, ils ont hésité pendant longtemps, après ils sont venus. Et maintenant je dis, mettez-vous à genoux. Et maintenant les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il croit qu'il est lui? Et les autres sont mis à côté en train de me regarder. Et je me suis tenu devant eux. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Après, j'ai dit, ok, ça, c'est fait, tu es guéri. Et ma prière pour aider tellement court. C'est ce que je savais que je devais faire. Donc, quand j'ai dit, après, j'ai dit, ok, tu es guéri. Ils étaient encore dans leurs genoux. Je dis, regarde encore, hein, tu es guéri. Tu es guéri. Et un à un, ils ont commencé à se lever et ils ont commencé à témoigner qu'ils sont guéris. Ils étaient guéris. Et la nuit suivante, ils ont allé dire à tout le monde qu'ils ont vu le miracle, quelque chose de nouveau. Ils sont allés dire l'histoire. Et beaucoup de gens sont venus la soirée suivante. Mais là, ils s'attendent que je fasse la même chose. Et j'ai fait la même chose. Et il y avait plus. Il y avait plus. Il y avait plus. Et c'était le moment de les défier. Et la promesse est à toi et à tes enfants et à ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur va les appeler. Il dit, vous devez recevoir tous le Saint-Esprit. Et j'avais deux amis, et qu'il y avait un qui était plus grand que moi, et l'autre était avec moi. Et donc nous partageons ces choses, nous prions ensemble, et nous venons, nous parlons dans cette réunion l'un à l'autre. Et j'ai dit qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Je vais imposer les mains sur vous, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Comme les gens ont reçu le Saint-Esprit au temps des apôtres. Et après avoir partagé avec eux, et ils sont venus et on a imposé les mains sur eux. Et les gens ont commencé à tomber sous la puissance. Ça, c'est la première fois que je vois comment les gens tombent. Donc, ça, c'est en 1999, quand j'ai posé les mains sur eux. Et la vie a changé. Et ils ont reçu le Saint-Esprit et parlé en d'autres langues. Et les choses étaient différentes maintenant. Merci Seigneur. C'est la chose que tu dois faire. Tout membre de cette cellule doit avoir le Saint-Esprit. Prêche l'évangile. Chacun d'eux doit être et doit avoir le Saint-Esprit. Montre-leur l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Et s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ils ne seront pas motivés de gagner des hommes. Et dans les églises où on ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit, mais pas rendre ministère de l'Esprit. Tu vois, juste quelques personnes qui ont le Saint-Esprit, beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Et après, on leur dit d'aller gagner les âmes. Ils ne peuvent pas avoir l'audace d'aller gagner les âmes. Tu as l'audace lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque les choses ressemblent bizarres, lorsque tu es timide de prêcher la parole, maintenant, tu dois ranimer ce que tu as, parle en d'autres langues, jusqu'à ce que tu prophétises. Et lorsque tu prophétises, ton esprit sera très alerte et maintenant va prêcher l'évangile. Sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. Ils ne peuvent pas prêcher l'évangile. Mais laisse qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit. Tes mains sont ointes. Et celui qui m'honore, mon Père va l'honorer. Si tu honores Jésus en prêchant l'évangile, en lui disant, partout où tu vas, pour témoignant de Jésus, lorsque tu témoignes de lui, mon Père va témoigner de toi devant les anges. Et ce partout où tu vas aller, il va t'honorer avec sa présence, sa grâce. et tout ce que tu vas faire va réussir. Parce que sa main est sur toi. Tu l'as honoré et il va t'honorer en retour. Alléluia. Dieu soit loué. Il faut te rassurer qu'ils ont le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent même pas bouger. Et cela ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Le Saint-Esprit fait en sorte que les personnes timides deviennent courageuses. Et il y a des gens qui disent, mais j'ai envie de prêcher l'évangile, mais je n'arrive pas à le faire. Je dis, mais tu veux le Saint-Esprit. Et dis, mais j'ai le Saint-Esprit. Je dis, c'est quel genre de Saint-Esprit que tu as? Parce que le Saint-Esprit te trompe dans Dieu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de Dieu. Tu es immersé dans Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui n'est pas courageux de prêcher l'évangile, tu dois lui demander quel type du Saint-Esprit que tu as reçu. Quel genre du Saint-Esprit que tu as reçu. Et quelqu'un qui dit que j'ai bu, et après je n'ai pas été boosté. Tu vas lui demander, mais c'est quelle qualité de vin que tu as bu? Il y a le genre de vin que tu bois, ton ventre devient grand. Mais il y a le genre de vin lorsque tu bois, tu deviens, tu es en train de voir les choses qui tournent autour de toi. Lorsque tu as cette dose du Saint-Esprit, les choses ne peuvent pas être pareilles comme d'habitude. Les choses ne peuvent être pas comme d'habitude. Non. Vous savez, lorsque tu te retrouves avec des amis, et il y avait des amis qui n'étaient pas très sérieux avec Dieu. Et donc, je me disais, je vais partager l'évangile avec eux. J'ai prié. Et je me suis trempé dans Dieu. Et j'ai parlé en d'autres langues. Et donc, la prophétie a commencé à sortir. Et tu commences à prophétiser. Tu déclares ce qui va se passer dans cette réunion, dans ce service. Et lorsque je l'ai fait, je savais que j'étais prêt. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que ta prédication sera en train de crier. Ça n'a rien à voir avec crier ou ne pas crier. Même si tu es juste en train de regarder. Regarde le témoignage de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards était tellement rempli de l'Esprit. Et lorsqu'il regarde, il regarde la Bible avec ses yeux. Et les hommes étaient en train de trembler avec la puissance de l'évangile. Parce que le Saint-Esprit est allé au travers du bâtiment. Et lorsque j'entends ce genre de personnes, je ne peux pas faire ce genre de choses. J'étais très inspiré de voir le témoignage de Dieu. Donc, c'est pourquoi je partage ce témoignage avec toi. Et donc, je vais aller dans un métier. Et on est restés tous là. Et la seule chose que je savais, c'est qu'ils étaient très inconfortables les uns après les autres. Ils ont commencé à pleurer en esprit. Et lorsque... Yes. Ils sont en train de pleurer à cause de la conviction de l'esprit. Donc... Et je n'étais pas en train de crier. Ils étaient remplis de l'Esprit. Et c'est ce qui a changé leur vie. Et il y a une jeune fille où je parlais à quelqu'un d'autre, elle était en train de rire. Je l'ai regardée. Et si tu as jamais vu Jésus, il dit, tes genoux vont se mettre à trembler. Je ne dis rien du tout. Et je continue à partager ce que j'avais à partager, mais je savais que j'étais rempli de l'Esprit. Et la prochaine chose que j'ai vue, elle était en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. L'Esprit de Dieu a pris le contrôle de cette jeune fille et elle était conduite à Christ. Je parle du ministère de l'Esprit de Dieu dans ta vie de tous les jours. C'est ce qui rend ton travail réussir. Et tu peux avoir ta réunion de cellules, tu peux avoir 6 personnes, 10. Donc, la petite chambre, l'espace que tu utilises peut devenir très petite. Comment est-ce que l'Église a commencé à venir? Donc, j'ai commencé dans le petit bureau avec mon petit staff. Et on a pris 9. Et donc les 3 étaient tous mes sœurs. Donc, il y avait 6 qui restaient parmi les 9. Donc, nous avons commencé dans cette petite salle et je veux partager la parole. Nous faisons notre travail. Nous commençons une réunion. Nous rentrons le mercredi et voilà. Et le dimanche. Et nous sommes allés partout pour prêcher. Et parle à tes frères. Nous sommes les 15, 20. Nous sommes quittés dans la petite salle. Et nous sommes allés au salon. Nous sommes allés 40, 60. Avant longtemps, c'était déjà trop. Les gens étaient assis au balcon. Et c'est devenu tellement grand. J'ai commencé à chercher un bâtiment. C'est en dimanche soir. Et j'ai trouvé une salle à or. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'avais des succès, ministère à succès, séminaire à succès. En Christ, comment être un succès en Christ? Et non, la salle est devenue petite et nous avons des gens jusque dehors. Est-ce que vous m'écoutez? Après, pendant que cela passait, je suis allé au Nigeria. Et le même esprit, va le faire. Parce que je les vois se produire dans d'autres cités. Ce n'est pas par la puissance, mais par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dieu t'entraîne dans la justice.